voilà, nous revenons en plateau pour accueillir notre invité, Freddy Ethan, ancien ambassadeur, directeur du Centre des Affaires Publiques et de l'État, qui est à Jérusalem, et auteur d'un livre qui s'appelle Adama, Israël, hier et aujourd'hui. Bonjour Freddy Ethan.
Bonjour.
Alors Freddy Ethan, avec vous, on va essayer de parler de cette politique, cette diplomatie qui s'active dans ce plan Trump, hein, on va dire ça. Et on se rend compte que Trump veut passer à la deuxième étape, ainsi que beaucoup de, même le Hamas d'ailleurs, voudrait bien passer à cette deuxième étape, alors que la première étape n'est pas tenue, puisqu'il existe encore trois otages, trois dépouilles d'otages à Gaza. Et que la démilitarisation n'est pas de mise aujourd'hui. Cette deuxième étape a été déjà actée par la résolution des Nations Unies, mais on ne parle pas de. On parle qui va désarmer le Hamas, avec aussi ce rajout qui a été un petit peu la surprise, hein, pour faire plaisir à Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, avec cette notion de. Peut-être d'un État palestinien, in fine, à cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va se passer cette histoire ?
Écoutez, tout d'abord, il faut dire qu'on ne peut pas, en politique, la confiance n'existe pas. Il n'y a que des intérêts. Et donc, je crois que aussi, il faut dire que chez les Américains, il n'y a pas de repas gratuit. Et donc, dans ce contexte-là, il faut comprendre que Donald Trump est sans doute, probablement, l'un des meilleurs, ou peut-être le meilleur ami d'Israël depuis 48, président américain qui a prouvé, qui a fait ses preuves déjà dans son premier mandat, c'est-à-dire il a transféré l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem pour la première fois depuis 48. Et deuxièmement, il a reconnu le plateau du Golan comme appartenant donc souverain, territoire souverain de l'État d'Israël. Ce sont deux, je dirais, deux piliers d'une politique à la fois dans le contexte diplomatique, mais aussi sur le plan stratégique et sécuritaire. Mais il faut dire aussi que Donald Trump n'est pas un diplomate. Et donc, c'est un homme d'affaires. Il veut faire des deals, comme on dit. Et c'est-à-dire, dans ce contexte-là, il jongle avec les milliards. C'est un personnage imprévisible aussi. Mais dans ce contexte-là, nous pouvons et nous devons, et il faut le faire, avoir de notre part un plan. Ce que je dirais même un mémorandum d'accord entre nous et les États-Unis pour ne pas avoir plus tard, d'une part, dire Amen, comme le fait Netanyahu juste après le Conseil de sécurité que vous venez de mentionner, et d'autre part, de ne pas avoir des surprises concernant, par exemple, la visite du nouveau maire de New York à la Maison-Blanche et cette déclaration, je dirais, assez étonnante que Donald Trump n'a pas eu de réaction après ses propos incendiaires contre l'État d'Israël.
Alors, Freddy, on va revenir effectivement sur ce que vous disiez. C'est-à-dire que, bien évidemment, je dirais qu'on peut également ajouter dans la liste des actes très forts de Donald Trump les accords d'Abraham, mais comme vous le disiez, il y a des choses qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Il y a eu, il y a quelques jours, cette réception somptueuse de Mohammed bin Salman donc à la Maison-Blanche. Effectivement, l'Arabie Saoudite devrait investir des milliards et des milliards aux États-Unis. Il y a aussi cette inquiétude de vente de F-35 à Riyad. Alors, tout d'un coup, l'Arabie Saoudite est devenue l'un des meilleurs amis ou le meilleur ami de Trump. Ça vous inquiète pas un petit peu tout ça?
Écoutez, ça nous inquiète, mais il faut comprendre que en diplomatie, on fait des concessions et des compromis. Et je crois que la normalisation avec l'Arabie saoudite non seulement changera la géopolitique du Moyen-Orient d'une part, mais il faut comprendre que l'Arabie saoudite est le leader du monde islamique. C'est à Mecca que les pèlerins arrivent. C'est une, je dirais, une puissance régionale importante, et que l'Arabie saoudite peut investir des milliards pour reconstruire ce Proche-Orient qui a été dévasté par les guerres. Donc, y compris au Liban, il y a un retour des sunnites qui contre l'Iran chiite. Et donc, tout ça change. Il faut remodeler le Proche-Orient. Et c'est grâce aux Américains qu'on pourrait le faire et non pas seul. Je vous rappelle, et peut-être vous ne le savez pas, qu'il y a déjà des contacts informels avec les Saoudiens. Les avions israéliens peuvent survoler le territoire saoudien. Des personnes, des cheikhs saoudiens arrivent à Jérusalem pour se soigner. Donc, tout cela prouve par là qu'il y a une entente déjà tacite entre avec nous et l'Arabie saoudite. Mais aussi, il faut comprendre que l'Arabie saoudite a besoin d'Israël aussi, parce que pendant plus de 9 ans, elle a été confrontée à une guerre qu'elle n'a pas voulu contre les Yéménites, contre les Houthis. L'Arabie saoudite a été bombardée, y compris contre les puits de pétrole. Et c'est l'Iran qui était derrière, jusqu'à aujourd'hui. Donc elle a besoin, elle a vu aujourd'hui qu'Israël est capable, en 12 jours, de mettre hors jeu l'Iran, y compris pour plusieurs années, leur capacité nucléaire. Et d'autre part, pour les Houthis, vous n'entendez plus d'ailleurs les Houthis lancer des missiles sur Israël. Donc, dans ce contexte-là, je crois que c'est important. Évidemment, vous avez rappelé les avions furtifs F-35, mais ces avions furtifs vont être livrés dans 5 ou 6 ans. Et d'autre part, je vous rappelle la performance de nos aviateurs, de nos pilotes israéliens. Et d'ici là, Israël a déjà négocié pour avoir une technologie de pointe plus importante et la maîtrise du ciel. Parce que le combat aérien est important quand on a la maîtrise du ciel. Aujourd'hui, Israël a la maîtrise du ciel dans tout le Moyen-Orient. Et donc, dans ce contexte, je rappelle qu'il est important d'être avec Trump et ne pas saboter donc Trump. Et aussi essayer de dire aux Américains, écoutez, Ben Salman, comme on dit, MBS demande, exige préalablement donc ce qu'on appelle, selon la résolution qui a été adoptée et qui d'ailleurs a été adoptée, et non pas, il n'y a pas eu de veto, ni russe, ni chinois. Ils se sont abstenus. Donc il y a une maîtrise de la diplomatie par Donald Trump dans le monde entier. Au moment où je vous parle, il y a une rencontre à Genève pour l'Ukraine. Donc il y a un va-et-vient, il y a un balai diplomatique partout que Trump veut. Le but est d'essayer par le biais économique d'arriver à ses fins. Et je crois que dans ce contexte, il y a une opportunité historique que nous devons saisir. Et il faut dire aussi que sur le plan intérieur, Netanyahou, dans cette balance-là, doit choisir Donald Trump et non pas Ben-Gvir ou Smotrich.
Alors, justement, il y a cette notion de l'arrivée de l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham et cette relation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais de l'autre côté, on voit bien qu'il y a une réactivation de l'axe Hamas-Hezbollah-Iran, puisqu'on sait que le Hamas est en train de gagner du temps. On voit bien que la première phase n'est pas terminée, et alors qu'elle aurait dû être terminée en très peu de temps, qu'il y a encore 3 otages, 2 d'otages à Gaza, que la démilitarisation n'est pas pour demain, que la force internationale n'est pas prête encore à s'installer à Gaza, et que déjà Trump commence déjà à poser des jalons en disant, vous parlez d'économie, en disant dans la zone gérée par Israël, à ce moment-là, on va commencer à construire des maisons pour notamment du côté de Rafah. Mais tout ça sous l'œil bienveillant du Qatar et de la Turquie, qui lui ne veut pas, certainement pas, de voir une Arabie Saoudite se rapprocher d'Israël et de dominer le monde musulman, notamment avec le Qatar et surtout avec le Turc d'Erdogan. Quelle est votre analyse sur cette géopolitique ?
Vous savez, nous sommes inquiets évidemment de la position surtout d'Erdogan. Nous connaissons ses positions et je vous rappelle qu'à Istanbul, c'était le Hamas avait pignon sur rue, jusqu'à présent d'ailleurs. Il faut rappeler que le Hamas, c'est les frères musulmans. Et Erdogan représente un parti islamiste qui, depuis 21 ans, dirige un bras de fer, la Turquie. Mais la Turquie est aussi membre de l'OTAN. Donc, c'est là le problème. Et c'est l'allié des Américains, contrairement à l'Iran, qui est notre ennemi. Et l'Amérique, pour les Iraniens, c'est le grand Satan. Donc, il y a un choix à faire. Deuxièmement, évidemment, le Qatar aussi. Le Qatar, c'est Al Jazeera. C'est la télévision internationale financée par les frères musulmans. Mais c'est aussi un allié ou un favori de Donald Trump. Et c'est pour ça que nous sommes prudents dans ce sens où les affaires économiques prévalent aujourd'hui sur les intérêts à la fois diplomatiques, stratégiques et militaires. Maintenant, comment faire? Comme vous le savez, selon le plan Trump de 20 points, et les Américains se trouvent, il y a un quartier général en Israël, à Kiryat Gat, à une vingtaine de kilomètres de Gaza, que d'ailleurs, il y a plus ou moins une vingtaine de pays aussi, la France est représentée par 3 militaires, mais la différence avec la politique française que Macron a essayé d'imposer à New York et de reconnaître un État palestinien, c'est que Donald Trump refuse la création d'un État palestinien pour l'heure, et qu'il y a un consensus en Israël, à droite et à gauche, contre la création d'un État palestinien depuis, évidemment, le terrible massacre du 7 octobre 2023. Donc il y a, évidemment, des avantages, il y a des problématiques, évidemment, avec d'autres, mais nous ne vivons pas dans un cercle assez fermé ou dans des pays européens, on ne sont pas au Luxembourg. Et donc, il y a là un environnement jusqu'à présent hostile. Mais jusqu'à quand? Et donc, il faut mettre un terme. Il faut tourner la page. Et je crois que Israël a besoin aujourd'hui d'un répit, de trouver une solution pacifique. Et là, il faut saisir cette opportunité. Elle n'est pas parfaite, mais il faut commencer à négocier. Et je regrette qu'il n'y a pas assez de diplomates capables aujourd'hui, avec les Américains, de rédiger donc un mémorandum qui nous donnera, comme on a fait en 1975, c'est-à-dire un accord stratégique après la guerre de Kippour avec les Américains, où cela nous donne un gage pour continuer donc la deuxième et la troisième phase concernant Gaza. Mais Gaza, c'est un territoire maudit. On ne va pas retourner à Gaza. On y était déjà 29 ans. On a quitté Gaza donc, après, en 2006. Donc tout cela nous donne l'impression qu'il y a ici et là, ça bouge. Mais la diplomatie doit être là, présente. Malheureusement, je dis bien, et j'ai participé à des négociations à l'époque, il n'y a pas cette volonté diplomatique. Il y a plutôt ce que disait Kissinger, Israël n'a pas de politique étrangère. Elle a une politique, il disait en anglais, de domestic policy, c'est-à-dire une politique intérieure. Et c'est là la gravité. Et Netanyahu doit effectivement, et il connaît parfaitement, il était ambassadeur à l'ONU, il connaît parfaitement la diplomatie, il connaît parfaitement les Américains, doit, je crois que si Netanyahu veut, je dirais, entrer dans les pages glorieuses de l'histoire d'Israël, il doit saisir cette opportunité et avancer donc vers cette solution.
Alors, Freddy, vous l'avez dit, il y a aujourd'hui des discussions entre Américains et Ukrainiens à Genève. Il y a ce qui a été perçu comme une espèce d'ultimatum qui a été lancé à Zelensky en disant vous devez accepter que certains territoires passent dans les mains des Russes, vous devez être démilitarisé, etc., etc. Alors, je ne vous pose pas la question, Freddy, de savoir si effectivement Netanyahou n'avançait pas dans le domaine de la diplomatie, si Trump n'imposerait pas également un certain nombre de choses à Israël. Mais je voulais vous demander, il y a eu, il y a quelques jours, un entretien téléphonique entre le Premier ministre israélien et Vladimir Poutine. Et c'est quand même important. Ils se sont parlé. Est-ce que l'on sait ce qu'ils se sont dit?
Écoutez, il y a des contacts permanents. Nous avons une ambassade à Moscou, évidemment. Cela n'est plus que ce qu'était l'Union soviétique depuis 90. Donc, nous sommes là dans une situation tout à fait normale. Nous avons eu un mécanisme, puisque je vous rappelle que la Russie était présente en Syrie. Elle est jusqu'à présent. Mais la guerre en Ukraine a réduit les forces présentes, donc, en Syrie. Et donc, pour Israël, il est important que la Russie ne revienne pas en Syrie. Et c'est là l'importance. Parce que si la Russie revienne, on aura un problème aussi avec les Américains et on ne veut pas internationaliser donc, le conflit une nouvelle fois en Syrie. Et donc, nous avons intérêt aussi, on a parlé de l'Arabie Saoudite, mais on va avoir aussi, on va signer probablement avant Noël un accord sécuritaire avec la Syrie. Ce sera un premier accord depuis les accords de désengagement en 1974 après la guerre de Kippour. Donc c'est ce désengagement sécuritaire, cet accord sécuritaire est important. Et on a fait part aux Russes de ne pas saboter donc cet accord sécuritaire avec la Syrie. Et c'est très important d'avoir à la fois des contacts permanents, évidemment avec les Américains, c'est notre allié, le principal allié, mais aussi avec les Russes et aussi avec la Chine. Il vaut mieux avoir des contacts qu'avoir des problèmes quotidiens avec chaque État.
Alors c'est dans cet esprit que Donald Trump aurait accueilli El-Shaha, le nouveau patron de la Syrie, justement pour d'abord imposer sa vision, préparer des accords avec Israël, de nos accords sécuritaires en tout cas, c'est juste un début, hein, faut pas penser qu'il y a des accords de reconnaissance, etc. Mais il y a aussi surtout cette base américaine aux portes de Damas qui serait là pour justement gérer cet événement. Et est-ce que cette gestion va permettre véritablement à éviter le réarmement aussi du Hezbollah au Liban et peut-être que le Liban va pouvoir s'en sortir?
Écoutez, tout d'abord, El-Shaha, il faut rappeler, c'est un ancien terroriste.
Hein. Ah oui.
Et il a été reçu, le premier qui a reçu El-Shaha, c'était Emmanuel Macron à l'Élysée. Mais il faut dire aussi que La Syrie d'aujourd'hui ne veut pas intervenir au Liban. C'est important. Je vous rappelle que la Syrie a occupé le Liban pendant plusieurs années. Il ne veut pas donc retourner au Liban. Il préfère reconstruire donc son pays. Il a besoin de fonds. Et c'est l'Arabie Saoudite qui va fournir. C'est les Américains qui vont superviser sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan économique, puisque l'Arabie Saoudite, comme vous le savez, la famille Trump et la famille Witkoff a des affaires aussi avec l'Arabie Saoudite. Donc tout se mélange. Et là, on essaye de trouver une solution. Mais il est important, je crois, de maintenir le pouvoir d'El-Shara, parce qu'il est aujourd'hui entre deux feux, c'est-à-dire il est à la fois contre la reprise, parce qu'il y a eu 3 à 4 fois même des tentatives d'assassinat, d'attentat contre lui. Il a besoin d'Israël, mais aussi il veut se maintenir contre Al-Qaïda et contre les nouveaux donc terroristes islamistes. Et c'est dans l'intérêt d'Israël d'y être. Maintenant, sur le plan sécuritaire, il faut dire que nous sommes aujourd'hui ce qu'on appelle le mont Hermon syrien. Vous savez, le mont Hermon, c'est les yeux et les oreilles d'Israël. Je ne rentre pas dans les détails. C'est un point stratégique qui a été conquis depuis la guerre des Six Jours. Donc, sur le plan du renseignement en général, sur le plan de la technologie et tout cela, nous souhaitons continuer à préserver donc le mont Hermon syrien. Les Américains nous demandent de se retirer. Il y a des négociations. Et c'est là le point d'achoppement, si vous voulez, entre nous et les Syriens, qu'on n'a pas jusqu'à présent signé donc cet accord sécuritaire, je l'espère, et je suis convaincu que les pressions américaines vont jouer ici un rôle important.
Alors Freddy, une dernière question. Vous êtes un expert des relations entre la France et Israël. Vous avez servi à l'ambassade d'Israël à Paris. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment, je voudrais rappeler, Marianne et David. Vous avez également écrit un livre qui était consacré à Nicolas Sarkozy. Et il y a un livre que vous aviez écrit il y a quelques années qui s'appelait La France, Israël et les Arabes, le double jeu, point d'interrogation. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à quoi joue Emmanuel Macron?
Il joue un double jeu. Je crois que Emmanuel Macron a de mauvais conseillers. Et je fais allusion à un conseiller que tout le monde connaît.
Qui est d'origine tunisienne
et qui se
Entre
promène en
autres.
jogging. Bon, on sait de qui on parle.
Et ce conseiller vraiment joue un rôle, je dirais, néfaste, qui ses conseils de reconnaître du jour au lendemain un état virtuel qu'on n'a même pas négocié, qu'on ne sait pas exactement où sont ses frontières. Et voilà que Emmanuel Macron réunit tout le monde et il accorde tout cela. Donc, je crois qu'Emmanuel Macron, il faut dire en général, est sincère pour son amitié vers Israël. Mais il y a à la fois cette naïveté d'une part, il y a, évidemment, je ne veux pas rentrer dans les détails sur le plan de la politique intérieure française, mais il y a un électorat important aussi. C'est son dernier mandat. En 2027, il ne sera plus président et il veut entrer dans l'histoire aussi avec des actions, des activités qui pourront dire aujourd'hui qu'il marque l'événement. Mais Emmanuel Macron aussi joue et a essayé de saboter l'initiative américaine des 20 points. Et Donald Trump est un ami aussi d'Emmanuel Macron. Mais dans ce contexte, je crois que tous les présidents français, depuis Giscard d'Estaing jusqu'à ce jour, ont essayé de faire cavalier seul, toujours. Je rappelle l'ouverture donc d'un bureau de l'OLP à Paris depuis 1975, depuis la rencontre avec Arafat, Sauvagnard Arafat, et après que Chirac accueille Arafat, et il meurt aussi Arafat à Paris. Donc il y a là une situation, une obsession vis-à-vis des Palestiniens. Mais aujourd'hui, après le 7 octobre, comment peut-on penser, imaginer un État qui sera peut-être demain un État dirigé par le Hamas ou par l'Iran? Donc il est évidemment clair, et les Américains comprennent parfaitement, malheureusement, Macron et d'autres personnes en France, comme Mélenchon et d'autres, pensent autrement et pensent que l'État palestinien est une nécessité. Mais je crois qu'on doit inverser la vapeur, c'est-à-dire dans ce sens-là, que d'abord, nous devons régler les problèmes régionaux. Parce que si demain il y a un État palestinien, on n'a pas réglé les problèmes avec la Syrie, avec le Liban et les autres, et avec l'Iran, on ne pourra pas avoir un État viable pour les Palestiniens même. Et donc, il est très important d'avoir dans la diplomatie surtout, il n'y a pas des raccourcis dans la diplomatie. C'est par étapes. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu une conférence internationale à Madrid, juste après la première guerre du Golfe. C'était là qu'on a réuni tous les pays arabes ensemble. Il y avait même la Syrie, il y avait tout cela. Nous refaisons évidemment une conférence internationale pour régler tout. Mais si chaque partie joue un rôle et commence à négocier sur les problèmes qui nous concernent, qui concernent sur le plan bilatéral, nous pouvons achever, donc arriver à une solution. Mais mettre la charrue avant les bœufs, ça ne marche pas. Et Macron s'est trompé sur toute la ligne et on le regrette vivement.
Non, mais Macron est impressionné par la technologie israélienne et par cette capacité d'Israël à mener des combats sur sept fronts. Et c'est ça qui doit le déranger. Merci, Freddy Ethan. Merci de votre analyse, parfaite analyse d'ailleurs. Et je pense que nos auditeurs et nos auditrices ont bien compris le message passé. Merci à vous. À bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Et nous allons, dans quelques instants, recevoir notre troisième invité, Yigal Palmore.